Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
Ma révolution porte ton nom.
Qu'est-ce qu'un parti révolutionnaire ? C'est une organisation qui se propose de tout niquer méthodiquement.
Des lendemains qui chantent. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris. 93.9 FM.
Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode des Lendemains qui chantent. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de la nouvelle chanson chilienne. Dans cet épisode, chère auditrice, va se conclure l'histoire de ce mouvement musical et politique, mais se terminer, pas vraiment. Ce que je vais raconter n'est pas réellement une fin. Les destins tragiques des artistes que nous avons entendus et allons entendre n'ont pas arrêté le mouvement musical. Il a continué à s'exprimer malgré un pays en sursis, plongé dans le désespoir et l'obscurantisme. Pendant 15 ans de dictature, se sont échappés par les interstices de la prison dictatoriale les voix et l'espoir du peuple chilien. Tu te poses peut-être la question, pourquoi raconter cette histoire poussiéreuse 51 ans après les faits ? Est-ce que ce n'est qu'une histoire d'horreur, trop lointaine, trop irréelle, trop atroce pour en tirer quoi que ce soit ? Quelle leçon tirer d'un tel cauchemar si ce n'est que l'humanité est capable des pires atrocités ? Si je la raconte, c'est que cette histoire porte quelque chose en elle. Dans ce pays, à ce moment de son histoire, s'affrontent deux visions de l'humanité. L'une pense pouvoir écraser l'autre par la force, mais n'y parvient pas. C'est l'histoire de personnes qui ont vu le fascisme apparaître dans leur quotidien, qui ont subi dans leur chair les conséquences de l'impérialisme. Ces deux spectres qui nous paraissent si abstraits, si lointains, quoique de moins en moins, leur ont fait perdre à eux leurs proches, leur dignité, leur intégrité physique et leur voix. Pour d'autres encore, leur vie. Leurs espoirs légitimes de sortir de la misère ont été, du jour au lendemain, écrasés par des bottes de cuir. Et pourtant non, ces gens ne se sont pas arrêtés. Toujours, de cette infamie s'est échappé un chant, un cri, une rage, une vision d'un jour meilleur. C'est ce qui fait qu'à la fin, la nouvelle chanson chilienne ne meurt pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une voix qui n'est pas morte. Épisode 3. L'espoir ou la mort. Après la victoire d'Allende en 1970, les réformes économiques se succèdent et améliorent la condition des travailleurs et travailleuses du pays. Le pouvoir d'achat des classes populaires augmente, mais c'est aussi le cas de leurs conditions de vie en général. Meilleur système de santé, lutte contre le mal logement, contre l'analphabétisme, contre la mortalité infantile qui était énorme à l'époque. Bref, on ne va pas faire tout le programme.
Cette foule, c'est la force du président Allende. C'est la masse de tous ceux qui vivent mieux aujourd'hui qu'hier, qui en tout cas assure avoir trouvé une nouvelle dignité.
La culture aussi s'est déployée. Comme l'aboutissement de tout ce que les artistes de la nouvelle chanson chilienne ont espéré, le premier festival de la chanson ouvrière, donc de chansons uniquement écrites et composées par des travailleurs et des travailleuses, s'ouvre en 1973. C'est justement sur cette année, tristement décisive pour le mouvement social, que notre histoire se déroule. « Évidemment, les réformes de l'unité populaire n'ont pas attiré beaucoup d'amis à Allende au sein de la bourgeoisie, que ce soit à l'étranger comme dans son propre pays. Des ripostes économiques et politiques vont, bien sûr, fragiliser le rêve socialiste en construction. Premier exemple, comme on l'a dit dans le précédent épisode, le cuivre, première ressource du pays, est maintenant nationalisé. Les profits enrichissent donc directement l'État, et non plus les entreprises étrangères qui les possédaient. Problème, les pays du bloc de l'Ouest qui achetaient ce cuivre décident de ne plus s'approvisionner au Chili, puisque les bénéfices ne les enrichissent plus, et surtout qu'ils ne souhaitent pas financer un pays socialiste, guerre froide oblige. Autre exemple, le pouvoir d'achat augmente, certes, mais le Chili doit améliorer son système de production pour suivre la demande. Les entreprises occidentales refusent de vendre le matériel qui permettrait de la développer. Le Chili est contraint, encore une fois, d'importer faute de pouvoir produire. Les aides internationales au développement sont drastiquement diminuées. Anecdote, elles reviendront à leur taux normal une fois que Pinochet sera arrivé au pouvoir. Crise économique, inflation, marché noir, procédure de destitution en cascade lancée contre les membres du gouvernement, la gouvernance de l'unité populaire fait face à une bonne quantité de bâtons dans les roues, parfois manœuvrés et accentués depuis l'étranger. Notamment par une certaine puissance économique mondiale nord-américaine en besoin de répandre sa destinée manifeste partout sur la planète. Je vous laisse le soin de deviner laquelle. Dès l'arrivée d'Allende au pouvoir, la CIA a financé toutes les activités qui pourraient déstabiliser l'économie et le gouvernement. Des milices paramilitaires fascistes sont en manque de moyens et cherchent à former leurs membres. Eh bien, on va les aider à s'acheter des armes et envoyer quelques agents les entraîner. Des grèves orchestrées par les syndicats de patrons paralysent le réseau de transport, aggravant les pénuries du pays. Quand même, on va bien les financer pour les aider à tenir. Et puis, pourquoi ne pas alimenter d'un demi-million de dollars les journaux de l'opposition? Hein? Pourquoi pas? Il faut dire que Nixon, enragé de voir un gouvernement socialiste arriver au pouvoir, a ouvert les vannes. Dans une note interne à la CIA, on apprend qu'il débloque un budget de 10 millions de dollars pour destituer Allende. Dans une chanson sortie en 1970, le groupe Amerindios se demande comment Nixon peut-il rester serein avec la quantité démente d'ennemis qu'il s'est créé par ses actions répressives dans son pays comme ailleurs. Qui le tuera en premier ? Une mère vietnamienne, la femme d'un afro-américain, ou son vice-président peut-être. L'histoire nous dit que personne ne l'a fait.
A ti quien te ha de matar? Dime Nixon, ¿quién responde? Que de acuerdo tú has de estar, que también te corresponde, porque tú eres presidente de aquel gran país del norte. Tú te debes preguntar, ¿a ti quién te ha de matar? Una madre vietnamita será, o la esposa de un negrito quizás. Una baja en las sanciones será, o tu vicepresidente quizás. Ratatatatatatatatata, ratatatatatatata, ratatatatatatatatatatatatata, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Che Guevara no se mata,
ni a los negros se destruye.
En Vietnam desde hace tiempo, sangre yanqui fluye y fluye. Si eso le ocurre al soldado,
¿cómo no has de preguntar?
Tembloroso y preocupado, ¿a ti quién te ha de matar? Una madre vietnamita será, o la esposa de un negrito quizás. Una baja en las sanciones será, o tu vicepresidente quizás.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous venez d'écouter Nixon de Los Amerindios.
des lendemains qui chantent. Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Dans cette situation politique tendue, les élections parlementaires du 4 mars 1973 pourraient bien rebattre les cartes et résoudre le blocage que connaît le pays. D'un côté, nous avons l'alliance du centre et de la droite, qui ont des bonnes chances de gagner suffisamment de sièges pour destituer Allende. De l'autre, nous avons l'unité populaire, qui a la possibilité de gagner une majorité au Parlement pour pouvoir développer ses réformes sans que l'opposition puisse les empêcher.
Ces soldats, fusils d'assaut suisses sous le bras, surveillent le vote. L'armée s'est portée garante de la régularité du scrutin. C'est qu'au Chili, la journée des élections est un événement grave, aboutissement d'une extraordinaire tension politique. Ces hommes et ces femmes, nous les avons vus le 4 mars dernier, lors du renouvellement des chambres. Ils faisaient la queue, souvent pendant plusieurs heures, avant de glisser leur bulletin dans l'urne. En Amérique latine, le Chili fait figure de curiosité politique. C'est le seul pays du continent où une démocratie façonnée aux modèles européens fonctionne sans accroc. Son parlement, depuis 160 ans, n'a jamais cessé de siéger, les militaires n'y ont jamais renversé les civils, la validité des élections n'y est pratiquement jamais contestée. Mais l'ordre et le calme de cette journée contrastent avec la passion qui agite le pays dans ses profondeurs. Le Chili se trouve plus profondément divisé que jamais. D'un côté, la coalition des partis de gauche, l'Unité populaire, de l'autre, l'opposition, avec deux grands partis autrefois ennemis acharnés, le Parti national et le Parti démocrate chrétien.
Malgré un gain de siège pour l'Unité populaire, elle n'obtient pas la majorité au Parlement. La situation politique reste donc bloquée et la tension monte d'un cran. La droite n'a plus d'options institutionnelles pour stopper efficacement Allende et l'Unité populaire, bien que sortant victorieuse de ces élections, se voit contrainte de continuer les réformes sans cesse freinées par l'opposition. À partir de là, l'opposition, qui avait déjà réussi à imposer l'arrivée de militaires constitutionnalistes au gouvernement, va se concentrer sur la facilitation d'un coup d'État militaire. C'est à ce moment-là que la réaction se radicalise, avec l'organisation de groupuscules fascistes qui ne rêvent que d'une chose, la destitution d'Allende et la prise de pouvoir par les militaires. C'est le cas du groupe paramilitaire Patrie et Liberté, né au lendemain de l'élection du camarade président, comme il était appelé. Attentats, assassinats, sabotage d'usines détenues par des travailleurs, attaques et ratonnades, l'extrême droite s'était déjà déployée pendant tout le mandat d'Allende, mais suite aux élections, sa présence se fait plus menaçante, peut-être parce qu'elle sent son heure arriver. Des centaines d'attentats sont commis partout dans le pays.
Ampliamos algunas informaciones referente a la situación anormal que está viviendo la capital de Chile, Santiago, en este viernes 29, día de San Pedro y San Pablo. Abstenerse de venir al centro de Santiago.
Le 29 juin 1973, le gouvernement essuie une première tentative de coup d'État qui sera un échec. La gauche, qui s'était divisée au cours du mandat d'Allende, a appelé à s'unir autour de la riposte contre le prochain coup d'État très redouté. Cette union est symbolisée par la chanson la plus influente qu'ait produit le mouvement de la nouvelle chanson chilienne, El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. C'est une composition de Sergio Ortega, l'un des grands compositeurs du mouvement. Ami de Pablo Neruda, il a participé à la création du groupe Quilapayún et a même été nommé ambassadeur culturel du gouvernement de l'Unité populaire, aux côtés de Víctor Jara. Si vous ne connaissez pas ces personnes, c'est que vous n'avez pas écouté les précédents épisodes et je vous invite cordialement à le faire sur le site de Radio Campus Paris. Cette chanson, on la connaît encore aujourd'hui parce qu'elle est devenue le cri de ralliement des manifestations du monde entier. Et ce n'est pas pour rien. Déjà, on peut remarquer que son rythme, plutôt lent et régulier, évoque celui d'une marche, comme on peut aussi le lire dans les paroles. Debout, chantons, nous allons triompher. Déjà s'avancent les drapeaux de l'unité, et tu viendras marchant à mes côtés, et tu verras ton chant et ton drapeau fleurir. La lumière du homme rouge annonce déjà la vie à venir. Et puis, évidemment, il y a le refrain qui se crie plus qu'il ne se chante. On peut dire qu'ils se scandent. Et maintenant, le peuple qui se dresse dans la lutte avec une voix de géant s'écrie « En avant !» Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Des Lendemains qui chantent et nous venons d'écouter El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, interprété par Quilapayún. Suite à ce coup d'État échoué, la gauche s'unit. Mais une partie importante souhaite qu'Allende autorise la création de milices populaires pour organiser la défense du gouvernement en prévision d'un autre coup d'État potentiel à déjouer. Celui-ci refuse et propose de déclencher l'état de siège, proposition que le Parlement, à majorité de droite, refuse. Le 10 septembre 1973, un rassemblement émerge. Ce soir-là, la chanson que vous venez d'écouter est scandée comme pour repousser le mauvais sort. De nos oreilles actuelles, il sonne comme un adieu à ce moment de l'histoire qui aura vu naître le début d'un monde différent. C'est ce soir-là qu'Allende annonce à la foule la tenue d'un référendum. Il n'en aura pas le temps. Le lendemain, le palais de la Moneda est de nouveau pris d'assaut par des militaires. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un commando isolé et se jouent alors les dernières heures du gouvernement d'Allende. Les dernières paroles du compañero presidente s'échappent du palais assiégé de la Moneda. Depuis son micro, alors qu'il s'est réfugié sous une table, sachant qu'un bombardement était imminent, il improvise ses dernières paroles aux Chiliens et Chiliennes via la dernière radio encore en fonctionnement. Face à ces événements, il ne me reste qu'une chose à dire aux travailleurs. Je ne renoncerai pas. Impliqué dans cette étape historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. Et je vous dis que j'ai la certitude que la graine que nous avons semée dans la conscience de milliers et de milliers de Chiliens ne pourra pas rester enfouie définitivement. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne peut arrêter les mouvements sociaux, ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. Travailleurs de ma patrie, j'ai confiance dans le Chili et son destin. Plus tard, d'autres hommes dépasseront ce moment, obscur et amer, où la trahison prétend s'imposer. Aller de l'avant en sachant que, bien plus tôt qu'il n'y paraît, de nouveau, s'ouvriront les grandes avenues par lesquelles passe l'homme libre pour construire une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. Peu de temps après ces derniers mots, Salvador Allende se suicide dans le palais de la Moneda. Le militaire chilien qui trouve son corps appelle son supérieur. Mission accomplie, pièce prise, président mort. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. En bon marxiste, Allende délivre ses dernières paroles comme une leçon pour son peuple, résumant sa conviction profonde. La mort d'un homme n'est pas celle du mouvement social. Lui qui a pu gagner le pouvoir grâce à celui-ci est mis en échec par la force. Sa place, il la devait à une volonté des travailleurs et travailleuses du pays de voir leurs conditions de vie s'améliorer et de gagner le pouvoir avec lui. Sa mort, il la doit aux puissants que ça n'arrangeait pas, aux privilégiés de la société chilienne, aux bourreaux étrangers qui maintenaient la population dans la misère. Il n'est plus, mais le système d'oppression à déboulonner est encore là, et les raisons de la colère aussi. Elle reviendra en temps voulu. C'est la panique. La résistance tente de s'organiser tant bien que mal un peu partout dans le pays. Syndicats, travailleuses et travailleurs, militants et militantes tentent de tenir le siège des universités et des usines en vain. Une poignée d'hommes et de femmes sont parvenus à se réfugier dans une ambassade. Le cinéaste Chris Marker en fait partie et capture ces 2 semaines de confinement aux côtés d'autres réfugiés. Ses images et ses notes seront alors publiées après son extradition dans un film qui s'appelle « L'ambassade ». On y découvre la sidération, l'attente angoissée de ses protagonistes et le climat d'incertitude glaçant qui régnait dans cette enclave qui les protégeait pourtant des événements extérieurs dont ils venaient de s'extraire.
Chez moi, les paysans disent que l'angoisse est un ours noir qu'il faut chasser à force des rires et des cris, sinon il revient poser sa patte sur vous et vous ne pouvez plus bouger. Tout le monde a fait de son mieux au cours du repas, mais je les guettais dans mon viseur et je les ai tous surpris, au moins une fois, qui laissait l'ours approcher et s'immobilisait sous sa patte. Faute de nouvelles de l'extérieur, Maria entreprend de lire dans les marques de café et tout le monde participe. Il est 10h du matin et pour la première fois peut-être, l'angoisse n'est pas là, parmi nous. Elle se rattrapera vite. Un des enfants d'Isabelle que regardait par la fenêtre pousse un cri et j'ai juste le temps de voir un type traverser la rue en courant vers la porte de l'ambassade. Il n'y arrivera jamais. Les coups de feu ont terrifié les enfants et Isabelle les console en continuant le jeu, car depuis le début, elle leur raconte que c'est un jeu. Plus tard, nous saurons qui était l'homme abattu. Un camarade de Luco a pris le risque de lui téléphoner pour demander si l'autre était bien arrivé. C'était un jeune militant de leur parti, malade, et qui avait reçu l'ordre de se mettre en sécurité. Trop tard. Avant de raccrocher, le copain a donné rapidement quelques nouvelles. Elles sont pires que tout ce que l'on imaginait. À 8 heures, la télévision s'est réveillée. Les communiqués anonymes ont laissé la place à des vraies images, à de vrais discours. Sans doute, le nouveau pouvoir se sent-il suffisamment sûr de ses forces maintenant pour apparaître en pleine lumière. Interdiction de tous les partis politiques sans exception. Dissolution de tous les syndicats sans exception. Appel à la délation avec prime à l'appui. Énoncé des grands principes d'une nouvelle constitution dont l'inspiration est évidemment chauvine, raciste, corporatiste. Ce qui est intéressant, c'est que ce langage n'est pas celui de la bourgeoisie libérale, à peine celui de la droite classique. C'est plutôt celui des groupuscules fascistes les plus étroits, des journaux les moins lus, ceux dont nous nous moquions parce qu'ils retardaient d'un siècle sur l'histoire. Les militaires, eux, les lisaient. La bourgeoisie a lâché ses chiens sur ses adversaires pour reprendre le pouvoir. Mais à présent, ce sont les chiens qui tiennent le pouvoir. Et ils ne les lâcheront pas. Cet après-midi, un coup de téléphone nous a confirmé la rumeur qui courait. Des milliers de prisonniers politiques ont été enfermés dans un stade et tous les soirs, il y a des exécutions.
Un des chanteurs les plus emblématiques du mouvement faisait partie de ces prisonniers politiques. C'est Victor Jara qu'on a entendu dans les épisodes précédents. Le 11 septembre 1973, il inaugure une exposition d'art antifasciste à l'université de Santiago. Il est alors surpris par des militaires qui l'enlèvent avec plusieurs professeurs et élèves. Tous sont envoyés dans un de ces fameux stades, transformés en camps de prisonniers. À son arrivée, il est reconnu par un officier qui le roue de coups en l'insultant pour ses positions politiques, et ce n'est que le début de son supplice. Privé de nourriture et d'eau, torturé, souffrant de plusieurs fractures, il rassure pourtant sa famille par l'intermédiaire d'un des prisonniers libérés de la prison, 2 jours après son arrivée. Plusieurs histoires ont circulé sur les tortures que lui ont infligées les militaires. La légende raconte qu'il lui aurait coupé les mains ou les doigts avant de lui tendre une guitare pour lui demander de leur chanter une chanson. D'autres disent qu'on lui aurait également coupé la langue. Son corps aurait été ensuite exposé dans le stade à la vue de tous pendant plusieurs jours. La réalité n'a pourtant pas besoin d'être exagérée. À Nutri, les mains et les côtes brisées, il est assassiné de 44 balles dans le corps avant d'être abandonné sur un terrain vague avec d'autres prisonniers. Malgré cet état, qui lui permettait à peine de marcher, le matin même de son exécution, Victor Jara écrivait son dernier poème, qui restera inachevé, Estadio Chile, ou Somos 5000.
Nous sommes 5000 ici, dans ce recoin de la ville. Nous sommes 5000. Combien sommes-nous en tout, dans les autres villes et dans le reste du pays? Rien qu'ici, 10 000 mains qui sèment et font tourner les usines. Tant de gens dans la faim, le froid, la peur, la souffrance, la tension, la terreur et la folie. 6 d'entre nous se sont perdus dans l'infini des étoiles. L'un est mort, un autre a été frappé comme jamais je n'aurais cru que l'on puisse frapper un être humain. Les 4 autres ont voulu en finir avec toute leur peur. L'un a sauté dans le vide, un autre s'est fracassé la tête contre le mur. Tous avaient le regard fixé sur la mort. Quelle épouvante cause le visage du fascisme! Ils réalisent leur plan avec une précision diabolique, avec une froide indifférence. Pour eux, le sang versé devient médaille et le carnage acte d'héroïsme. C'est bien là le monde que tu as créé, mon Dieu? C'est à cela qu'ont servi tes 7 jours de labeur et de miracles? Entre ces 4 murs, il n'y a que des numéros qui n'ont plus d'avenir, qui peu à peu en viennent à ne désirer que la mort. mais soudain, je suis ébloui par l'image de cette marée sans mouvement et je perçois le pouls des machines pendant que les soldats promènent leur face de matrone doucereuse. Et le Mexique, et Cuba, et le monde, qu'ils crient cette ignominie. Ici, il y a 10 000 mains qui ne produisent plus. Combien sommes-nous dans tout le pays ? Le sang du camarade président bat plus fort que les bombes et la mitraille. Notre poing frappera de nouveau. Chant que tu viens mal quand tu dois dire l'effroi que je vis, l'effroi dont je meurs, quand je me vois en ces moments d'infini recommencer. Quand le silence et le cri sont la fin de mon chant, ce que je vois, personne ne le vit. De ce que j'ai ressenti et de ce que je ressens, naîtra un jour.
Ce poème, il l'a écrit sur un carnet emprunté à un co-détenu. Interrompu par les militaires, il est envoyé en interrogatoire et sera tué quelques heures plus tard. Le propriétaire du carnet se rend alors compte que ce qu'il a entre les mains n'est pas un mot destiné à la femme de Victor Jara, mais l'ultime poème du chanteur. Très vite, il en fait 2 copies sur des paquets de cigarettes qu'il confie à 2 prisonniers sur le point d'être libérés. L'une des copies sera trouvée par les militaires, forçant le porteur à dénoncer le prisonnier qui lui avait confié le texte. Il sera alors torturé et le poème original conservé dans sa semelle est confisqué. L'autre copie a pu sortir du stade et a été confiée à des militants communistes en fuite qui se sont chargés de la diffuser. Le poème sera publié clandestinement au Chili depuis l'Argentine. Les épouses des membres du groupe Quilapayún, en s'exilant en Europe, ont pu l'emporter avec elles et l'ont fait parvenir à la femme de Victor Jara. Joan Jara a enquêté pendant des années sur la mort de son mari et s'est battue pour faire condamner les responsables. De cette prison odieuse, de son supplice et sachant qu'il allait probablement mourir, il ne s'est pas résigné. Sa voix a été portée clandestinement pour qu'elle résonne, car toute personne ayant vu passer ce texte entre ses mains savait la portée d'une telle voix, d'un tel espoir. Cette voix s'est échappée de la prison dans laquelle on voulait l'enfermer. Dernière interview de Victor Jara, quelques mois avant sa mort, en
1973.
Vous ne chantez pas seulement à propos des travailleurs, des paysans, vous avez aussi dans votre répertoire plusieurs chansons d'amour. Bien sûr, c'est naturel. Je pense que nous existons tous parce que l'amour existe. Et je pense que l'on peut être meilleur parce que l'amour existe. Et le monde tourne, crée, se multiplie parce que l'amour existe. Nous pensons que l'amour est fondamental. Que l'amour est la relation de l'amour entre un homme et une femme et un homme, de l'homme avec ses semblables, avec ses enfants, avec son pays, ses instruments de travail, est vital. C'est l'essence de la raison d'être de l'homme. Il ne peut donc pas être absent des thèmes d'un chanteur populaire.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella. estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous venez d'écouter Vientos del Pueblo de Victor Jara.
Des lendemains qui chantent sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Malgré sa mort, l'œuvre de Victor Jara continue de vivre des décennies après ces événements tragiques. Dans un disque sorti lors de leur exil en 1974, le groupe Quilapayún reprend une des chansons de leur ancien directeur artistique et ami. Ils écriront d'autres chansons en sa mémoire et continueront à reprendre ses compositions jusqu'à aujourd'hui. Cette chanson, Con alma se nos llena de banderas, si l'on regarde son histoire de près, est assez particulière. En 1946, Ramona Parra, syndicaliste et militante communiste, est tuée lors du massacre de la place Bulnes à l'âge de 19 ans. Quelques décennies plus tard, pendant l'effervescence culturelle que connaissent les années 60, de nombreux artistes muralistes se forment en brigade pour recouvrir les murs des villes chiliennes de grandes fresques colorées à caractère politique. Celle du Parti communiste chilien est baptisée en hommage à la militante du parti. En mai 1970, c'est Miguel Ángel Aguilera, jeune militant de cette même brigade, qui se fait lui aussi assassiner lors d'une grève. Lui avait 18 ans. C'est en son hommage que Victor Jara écrit Con alma se nos llena de banderas. Et c'est en son hommage que Quilapayún la reprend. D'hommage en hommage, on voit ainsi se dessiner le cycle d'une violence qui s'abat sur les voies politiques dissonantes avec l'ordre établi. Pourtant, la chanson appelle à continuer la lutte, en suivant les pas de celles et ceux qui ne sont plus.
Oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día, y nacerá la flor del nuevo día.
A tus pies heridos llegará las manos del humilde, llegará. Marcharán
criminal. Tu nombre brinda al rico muchos nombres.
El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres.
No apagará el fuego de los pobres.
Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas.
Toujours sur Radio Campus Paris, et nous venons d'écouter Con Alma se nos llena de banderas, écrite par Victor Jara et interprétée par Kila Payun. Les autres membres de la nouvelle chanson chilienne ont également subi de plein fouet l'arrivée des fascistes au pouvoir. Henrel Parra a notamment connu l'emprisonnement dans un camp de concentration, et ce n'est pas le seul. Le lendemain du coup d'État, un de ses voisins contacte les autorités, s'indignant qu'un auteur-compositeur militant gauchiste ne soit pas déjà en prison. Une vingtaine de gendarmes viennent l'arrêter chez lui. Après 2 mois passés au stade national, il est envoyé au camp de concentration de Chacabuco, situé dans le désert d'Atacama. Il échappe à la mort, le régime ne souhaitant pas prendre le risque d'assassiner un autre artiste du mouvement de la nouvelle chanson chilienne. Sa femme parvient à le faire libérer grâce à des relations 7 mois après son incarcération. Dès la libération de 45 prisonniers, y compris la sienne, un concert est organisé. Le groupe Los Chacabucos, formé entre ses murs et mené par Angel Parra, va y interpréter plusieurs chants écrits pendant leur incarcération. Le concert est enregistré clandestinement sur cassette, grâce à un enregistreur placé sous la scène à l'insu des surveillants. Une fois exilé en France, Angel Parra publiera un album issu de cet enregistrement en 1975. Ce que vous êtes en train d'écouter, c'est El Alma de Chacabuco, donc l'âme de Chacabuco, interprété par Angel Parra. On l'entend dans les murs de cette prison où il est resté de longs mois. Lui et les autres prisonniers font résonner l'espoir et la fraternité. Je le cite. Solo nos queda el amor como respuesta al dolor. Il ne nous reste que l'amour comme réponse à la douleur. Les autres membres de ce groupe de prisonniers n'ont pas tous connu la même chance que lui. Sur la pochette du disque figure un hommage à Luis Alberto Corvalán, qui a enregistré ce concert et qui, s'il est parvenu à s'exiler, est mort des séquelles des tortures subies au camp. Je cite. On brisa son corps mais pas son esprit. Au dos de la pochette, on voit aussi que malgré la difficulté que les prisonniers pouvaient ressentir dans ce camp, l'espoir était la seule chose qui les guidait. Prisonniers dans un de ces camps de concentration, comme il en existe au Chili, Chacabuco. Des mineurs, des étudiants, des travailleurs, des artistes déportés par le fascisme dans un des déserts les plus inhospitaliers du monde, rassemblent force et volonté pour ne pas être brisés par les traîtres, dans des conditions que nous connaissons bien. Ils chantent, créent, étudient malgré les mitraillettes, les gardes, et nous ignorons tout du lendemain, sans nouvelles de nos familles. Ainsi, durant ce dramatique printemps, il ne resta que le meilleur de nos compagnons. Le courage, l'intégrité, la qualité morale, la solidarité et la certitude d'un futur qui serait à nous. La certitude que tôt ou tard, la justice du peuple triompherait de l'orgueil et de la haine qui ont envahi notre patrie. Elle triomphera, non pour se venger, mais pour construire une patrie juste, une patrie libre, une patrie comme l'avaient rêvé Recabarren et Allende, une patrie socialiste. Ce camp seul aura compté plus de 1200 prisonniers pendant son fonctionnement jusqu'en 1975.
Ce soir dans la cuisine, Isabelle et Jeanne combattaient le cafard avec des enregistrements des chansons de leur pays. Jonas, le plus petit des enfants d'Isabelle, les accompagnait. Sonia, qui porte encore les traces de son passage à la police, et quelques autres sont entrés pour les écouter. Jeanne compose et interprète des chansons très belles, souvent des chants de lutte. Il y a une semaine encore, elle chantait en public devant un millier de personnes qui suivaient son rythme. C'est seulement ce soir que j'ai pensé que ça aussi c'était fini, qu'elle ne chanterait plus jamais de cette façon-là. Le passé, c'est comme l'étranger. Ce n'est pas une question de distance. C'est le passage d'une frontière.
La nouvelle chanson chilienne meurt-elle avec le coup d'État ? Question légitime. Dans le pays, les disques sont censurés et leur production est rendue impossible. Pour autant, personne n'oublie ces paroles qui ont résonné pendant toute cette décennie d'espoir. Dans son livre « La nouvelle chanson chilienne », sorti en France en 1975, donc encore sous la dictature de Pinochet, le journaliste Jean Clouzet raconte. Là-bas, la chanson s'est enterrée. On cache les disques non pas comme on protège des reliques, mais comme on dissimule des armes. Des armes pour plus tard. Les chansons pour plus tard et maintenant. Répétons que le premier geste d'opposition à la junte a été cette internationale qui, aux obsèques de Pablo Neruda, a eu le courage de dire non. Pour prendre date. En période d'oppression, tous les moyens sont bons, et la chanson peut parfois répandre la vérité comme une traînée de poudre. Le pouvoir est de moins en moins au bout d'un refrain, mais en attendant les fusils, la chanson a son mot à crier. Le chant des partisans, pendant la résistance, ce n'était tout de même pas pour faire joli, non ? Dans la clandestinité d'un Chili replongé dans les ténèbres, la chanson refuse de mourir car elle a vite compris qu'elle a un rôle subversif à jouer. Les chanteurs en exil, les radios d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est reçoivent de temps à autre des poèmes sur papier et des chansons sur bande magnétique sorties on ne sait comment du Chili. Œuvres de chanteurs qui ne peuvent plus élever la voix ou bien d'inconnus qui prennent des risques sensés pour rappeler au monde ce qui a été fait à leur pays. Sur place, tout a été détruit en apparence. Pourtant, il subsiste, nous l'avons appris, quelques disques qui ont été miraculeusement sauvés des bûchers. Comme dans Fahrenheit 451, Ceux qui en ont hérité les apprennent à d'autres qui eux-mêmes passent à ton voisin, chantent à ton voisin. Témoignage d'une culture chèrement payée et qui n'a pas le droit de déserter. Ainsi, la plupart des artistes exilés poursuivent leur œuvre depuis l'étranger, comme on l'a vu notamment avec la publication de l'enregistrement de Chacabuco. Beaucoup décrivent ce sentiment d'exil forcé avec rage et peine, mais avec aussi toujours l'espoir, la certitude d'y retourner un jour. C'est le cas d'Isabel Parra, dans sa chanson « Ni toda la tierra entera ». Réfugiée en France, elle maudit son statut d'exilée. Elle sera finalement autorisée à revenir dans son pays en 1987, 3 ans avant la fin de la dictature et 13 ans après son départ. Où que je sois, je serai toujours éphémère. Mon travail quotidien, mes étoiles, mes fenêtres sont devenues des cendres. Elles se sont transformées en cendres du jour au lendemain. Je peux parler, je peux rire et je peux même chanter. Mais mes yeux ne peuvent pas retenir tant de larmes. Tout a été laissé à Santiago, mon début et ma fin. Si seulement j'avais laissé le cadeau de demander un oui, je choisirais la gloire de retourner dans mon pays.
Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera.
Venons d'écouter Ni toda la tierra entera de Isabel Parra sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous êtes toujours dans l'émission Des lendemains qui chantent. Le Chili entame une transition démocratique avec le retour des partis politiques en 1987. En 1990, 17 ans après le coup d'État, un nouveau président est investi, Patricio Aylwin. Tout semble être rentré dans l'ordre, pourtant les exilés retrouvent leur pays transformé. Le bilan des 17 ans de dictature est glaçant. Plus de 3200 morts et disparus, 38 000 personnes torturées. Les femmes ont payé le prix cher de ces tortures avec des formes de viol, d'une brutalité et d'une horreur que je ne peux pas décrire ici. À cela s'ajoute l'opération Condor, créée à l'initiative d'Augusto Pinochet. Une collaboration entre les services secrets des dictatures d'Amérique latine qui a permis aux régimes boliviens, argentins, chiliens, paraguayens, uruguayens et brésiliens d'éliminer entre 50 000 et 60 000 opposants politiques réfugiés à l'étranger, en ajoutant les 30 000 disparus et les 400 000 personnes emprisonnées. Augusto Pinochet, lui, meurt en 2006 avant d'avoir pu être inquiété pour ses crimes. Si ces régimes ont été synonymes de disparition, de deuil et de souffrance pour la population de ces pays, d'autres y ont vu une opportunité. Une opportunité en grande partie provoquée. Pendant ces années où la volonté de la population chilienne était violemment réprimée, des économistes formés aux États-Unis, les Chicago Boys, ont pu mettre en vigueur les premières mesures économiques qui fonderaient le néolibéralisme. Inspiré par ce que les économistes appellent encore dans les livres actuels « le miracle chilien », Margaret Thatcher et Ronald Reagan intégreront cette doctrine économique dont le monde souffre encore aujourd'hui. Oui, ce programme est partisan et ne s'en excuse pas. Le monde actuel parle de lui-même pour beaucoup d'entre nous. Mais si cette histoire a quelque chose à nous apprendre, c'est bien que l'espoir est toujours une option, même quand c'est la seule. Dans cette histoire, les voix qui le portent ne semblent être qu'un imperceptible chuchotement dans le silence brutal. Et même convaincue de cela pour une raison indescriptible, elle parle sous les bombes, griffonne quelques mots sur une feuille, sort un enregistreur, une caméra, une guitare dans la torpeur d'une ambassade assiégée, passe un petit mot a priori sans importance. Et pourtant ces voix si insignifiantes au milieu d'une étendue de noirceur perse trouvent un chemin jusqu'à nos oreilles aujourd'hui. Dans leur voyage jusqu'à nous, elles auront distillé l'espoir et le souvenir d'une époque douloureuse dont il faut se relever, encore. Malgré tous les drames qui ont ponctué l'histoire de ce pays, comme de tant d'autres, pour que le peuple puisse enfin retrouver sa liberté. C'est alors que ces fébriles morceaux d'humanité s'échappent de ce que celle-ci peut faire de pire. Quand la torture cherche à détruire l'esprit d'un homme et d'un champ, elle cherche à détruire son humanité. Mais il s'accroche à ce petit bout qui lui reste, qu'on ne peut lui nier. Il en rassemble ses dernières bribes pour écrire ses paroles, quitte à ce que ce soit les dernières. La nouvelle chanson chilienne n'est pas morte avec le coup d'État. Elle ne le pouvait pas. Car l'espoir continuait d'emporter les acteurs. Celui de survivre, de retourner dans son pays, retrouver les siens, les disparus, simplement pouvoir en faire le deuil et peut-être un jour reconstruire un petit bout du rêve, prématurément étouffé. Si cette histoire tient une telle importance, c'est parce qu'elle nous rappelle que l'essence de l'humanité et des horreurs qu'elle engendre, c'est l'espoir, car elle n'a pas d'autre choix. Ainsi, la nouvelle chanson chilienne n'est pas morte. Comme le disait Victor Jara, un chant de bravoure sera toujours un nouveau chant. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Et moi, je vous dis à dans 2 mois pour un nouvel épisode des Lendemains qui chantent.
Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino. Para seguir caminando, ojalá encuentre camino para seguir caminando.